BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com. Aujourd'hui, nous serons en compagnie d'Éric Maribion, c'est le vice-président France et Allemagne de Verizon Media. On fera le point sur son activité en France et sur ses ambitions dans les contenus. On parlera aussi de la 5G. Valérie Potin, qui signe l'édito de la semaine, reviendra sur les ambitions d'Accenture, qui a annoncé cette semaine son intention d'acquérir l'agence créative Droga5. Et puis, on s'intéressera aux alliances entre les marques et les cultures urbaines avec Christophe Manceau, directeur du planning stratégique chez Kantar Division Média et Thomas Jamet, PDG d'IPG Media Brands France. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et Julien Rizzo qui nous accompagne pour les news cette semaine. Bonjour Julien.
Bonjour Aurélie.
Alors Julien, lundi c'était le 1er avril et comme chaque année, la RATP a fait des blagues aux voyageurs.
Oui, après avoir détourné le nom des stations l'année dernière, la RATP a transformé lundi plusieurs stations avec des images invitant au voyage. On pouvait voir notamment des images des pyramides d'Égypte à la station éponyme, ou des images de l'aéroport de Roissy à la station Charles de Gaulle Étoile, ou encore des images du Colisée à la station Rome. Les voyageurs ont également été invités à se prendre en selfie devant ces images, à les partager avec leurs amis pour leur faire croire qu'ils étaient partis en vacances. Pour que la blague soit complète, des images d'Hublot ont été installées sur les métros des lignes 9 et 14, une belle supercherie de la RATP en partenariat avec l'agence We Are Chaussul.
Les gâteaux Oreo, eux, partent en quête du trône de fer, Julien.
Et à l'occasion de la 8e et dernière saison de Game of Thrones, Oreo s'adresse aux fans de la série et illustre plusieurs maisons de la fiction sur ses biscuits. Des biscuits à l'effigie des maisons Stark, Targaryen, Lannister ou encore avec la tête d'un marcheur blanc. Et pour couronner la campagne, l'enseigne s'est attaquée au générique de la série. On peut ainsi se voir se construire la carte de Westeros avec plus de 2750 biscuits. Sur fond d'une appâche saveur vanille, les biscuits s'accumulent pour former les tours des villes devenues mythiques de la série. Élaboré par les créateurs originaux du générique et par l'agence 360i, ce remake du générique donne aux fans de la série de quoi se mettre sous la dent en attendant la diffusion des prochains épisodes dans les jours à venir.
En tout cas, c'est extrêmement réussi. Moi, je suis pas hyper fan de la série, mais le générique est très très bien fait. Bon, tout autre chose, Sheba qui imagine ce qui se passe dans la tête des chats.
Oui, la marque de nourriture pour chats continue sa série de pubs nommée Resistance is Futile, avec une pub pour le moins originale. La publicité présente un crooner des années 60 qui interprète son titre phare. La chanson sensuelle et poétique semble être une véritable déclaration d'amour, sauf que les paroles résonnent étrangement. On entend ainsi le chanteur dire « Prends ma patte et je serai ton petit chat si tu me donnes du poulet ». Une balade romantique qui n'en est en fait que l'imagination de ce qui passe dans la tête d'un chat. Une campagne aussi absurde que drôle signée AMV Bébé de Déo. Un moyen efficace pour Sheba de se différencier de ses concurrents.
Et puis Twitter qui fait du zèle au sujet de la nouvelle loi contre les fake news.
En début de semaine, le réseau social a bloqué une campagne de pub du ministère de l'Intérieur qui incitait les internautes à voter aux élections européennes. Au nom du risque, avait annoncé Twitter d'enfreindre la loi contre les fake news. Cette loi, promulguée en décembre dernier, impose aux plateformes de rendre publique l'identité des financeurs des publicité politique ainsi que les montants investis. Ce que Twitter est incapable de faire, le réseau social a donc décidé de couper toute campagne de nature politique pour pousser le gouvernement à changer cette loi. Mais c'est finalement le réseau social qui a cédé, puisqu'après une réunion des dirigeants avec le nouveau secrétaire du numérique Cédric O, la campagne de pub est à nouveau diffusée sur Twitter.
Frédéric, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un côté arroseur arrosé.
Ah, c'est complètement ça, ouais. C'est complètement ça. Je dois dire que ça m'a fait rire. Voilà. Au premier abord. Ensuite, bah, je trouve que ça montre très bien le décalage entre le problème législatif et la réalité, du monde numérique qui fait que, c'est des mondes qui se comprennent pas très bien et qu'il va falloir encore pas mal travailler pour arriver à ce que tout ça fonctionne.
Merci, Julien.
BFM Business, Hebdo.com. L'invité.
L'invité de la semaine, c'est Éric Maribion. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président France et Allemagne de Verizon Media. Alors, vous allez me dire si je me trompe, Verizon Media, c'est le résultat de la fusion entre AOL et Yahoo.
Absolument.
Mais quelles sont vos activités en France exactement ?
Alors, en France, on représente également, à travers un partenariat, les marques de Microsoft sur la partie publicité digitale. Mm-hmm. Et donc, on touche deux tiers des internautes chaque mois français. Ça fait presque 40 millions, selon Médiamétrie, d'utilisateurs tous les mois, un tiers tous les jours. Et à travers, essentiellement, les marques Yahoo et les marques de Microsoft, Microsoft News ou Xbox.
D'accord.
Alors, votre actualité du moment, c'est Yahoo, également une marque que tout le monde connaît, mais qui est un petit peu, qui était un peu passé derrière, et qui inaugure un studio. Et ce studio, il va servir à quoi ?
Oui, alors c'est l'actualité en début 2019, puisqu'on vient d'ouvrir notre studio, qui va nous permettre de multiplier par 7 notre production de contenu en vidéo et plus particulièrement sur le mobile.
D'accord.
Parce qu'il y a une très très grosse appétence à la fois des utilisateurs et également des annonceurs. C'est un marché qui est en croissance à plus de 40% sur la partie vidéo. Et donc on a une approche très innovante puisque ce studio, c'est un studio avec une cuisine, un salon.
C'est un appartement.
C'est un appartement, exactement. Pour avoir la tonalité, la franchise également dans le choix et ce qu'on peut voir avec nos équipes, de pouvoir que traiter du sport de manière différente, de traiter des sujets écologiques avec Yahoo Green, de traiter de sujets politiques avec Clément Viktorovitch, tout ça sous la direction d'Alexandre Delperrier. Mm-hmm. Donc c'est vraiment cette nouvelle approche. On a un objectif qui est très clair, puisque sur Yahoo proprement parlé, on fait 14 millions de visiteurs uniques. Il y en a 5 millions aujourd'hui qui sont sur le mobile et on compte doubler ces utilisateurs d'ici la fin de l'année.
Mais je comprends bien votre logique, mais en même temps, est-ce que c'est pas trop tard pour aller comme ça à l'offensive dans les contenus? Vous le faites déjà, vous allez me dire, mais il y a Netflix depuis qui est passé par là, il y a Amazon, il y a les chaînes de télé traditionnelles, il y a les chaînes YouTube. Qui aujourd'hui a encore besoin de davantage de contenu?
Alors, d'abord nos utilisateurs, mais surtout c'est pas le même type de contenu. C'est vraiment le contenu, donc nos super channels, comme on les appelle. C'est vraiment l'actualité, ce que vous avez retrouvé sur la page d'accueil de Yahoo, mais également la partie sport qui était déjà historiquement très développée. Et puis les parties plus, on va dire people, témoignages et également politique. Donc c'est ce qu'on va pousser. Donc on est dans un contenu vraiment d'actualité, vraiment chaud, avec beaucoup de live.
Mais ça demande des moyens, ça, de faire ça.
C'est pour ça qu'on a on a doublé les équipes au niveau éditorial, également pour produire et également pour diffuser, puisqu'on diffuse chez nous, mais aussi on va céder des réseaux sociaux. Encore une fois, vraiment la cible, c'est vidéo et mobile. C'est vraiment ces deux ensembles. Aujourd'hui, on est à tous les jours, il y a plus de 55% des internautes qui regardent une vidéo et le marché publicitaire, c'est plus de 40% avec une croissance à plus de 40% sur la vidéo uniquement, et le mobile fait plus de la moitié. Donc c'est vraiment là où les utilisateurs et à la fois les annonceurs sont.
Et à la fois, on sait que le marché, y compris vidéo, il est extrêmement préempté par Facebook et Google, qui ont une position extrêmement dominante. Donc comment est-ce que vous faites pour respirer à côté de ces gens-là, parce que ils sont énormes.
C'est une très bonne question. En fait, quand on regarde Verizon Media aujourd'hui, on est autour de trois piliers. Le premier pilier média, qui est celui dont on va parler avec les audiences qu'on a et les développements dont on va parler sur le studio. Le deuxième pilier, qui est la partie technologie publicitaire, et le troisième, qui est la data, qui va irriguer les deux, le média et les technologies publicitaires. Et donc vraiment, notre objectif, c'est d'avoir une alternative, une approche totalement différente. Aujourd'hui, on est la troisième audience en France.
Ouais.
C'est justement derrière ces deux acteurs-là. Et avec une approche notamment très ouverte, si on regarde la partie technologique, très ouverte avec d'autres acteurs. Et également sur la partie contenu, on en parlait. On a des contenus qu'on diffuse chez nous, mais aussi chez les autres. Et des partenariats qui vont venir. Et aussi des partenariats industriels, comme celui avec Microsoft, déjà qui existe depuis 2015 et qui a été renouvelé et étendu à toute la publicité native et à une cinquantaine d'autres pays sur ce début d'année.
J'ai lu que vous annonciez aussi des partenariats à venir avec des marques, mais de quel type de marque et pourquoi faire ?
Alors, dans notre développement, on a parlé de la 5G. On est aussi, Verizon Media est à la pointe de la 5G. Verizon vient d'ouvrir deux villes aux États-Unis sur la 5G, et donc la façon de traiter à la fois les contenus mais les expériences publicitaires, on va être les précurseurs sur cette approche. Et donc c'est pour ça que ce studio, qui est le premier au niveau Europe continentale, et donc
c'est une sorte de poste avancé,
exactement,
de la création,
pour à la fois traiter des contenus pour les utilisateurs, mais également des expériences de marque, comme on, déjà on a pu le faire avec notamment Riot Studio sur des expériences immersives ou du brand content, on va dire plus
c'est quoi Riot
classique.
Studio?
Riot Studio, en fait, c'est notre c'est le nom d'une société qui a été rachetée sur et qui est spécialisée sur le traitement des événements de manière totalement immersive en 360, notamment sur des événements dramatiques pour plus sensibiliser le public et donc lever plus de fonds derrière. Et aujourd'hui, on l'utilise pour traiter des sujets annonceurs, également des sujets annonceurs. Et c'est comme ça, par exemple, les dernières expériences avec Toyota sur leur voiture à hydrogène, qui vient d'être diffusée il y a quelques semaines, a été fait avec les équipes de Riot Studio, qui est donc commercial, qui va pouvoir bénéficier également de ce studio à Paris.
Et est-ce que la marque, moi ce qui m'interpelle quand même, c'est cette marque Yahoo qui a été, bah oui, ça a été quand même, bah c'est l'une des premières marques, grandes marques du web avant Google. Aujourd'hui, comment est-ce que j'ai un peu de mal à m'imaginer où est-ce qu'elle se place, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment elle a disparu ou quasi, franchement. Là, vous la faites revenir à travers un studio. Comment est-ce que vous allez faire pour la crédibiliser en quelque sorte par rapport à ça?
En fait, sur ces marques qui sont historiques, c'est vrai qu'elles se sont transformées. Et ça a été le cas de Yahoo, qui s'est transformé à la fois dans élargir son business model, toujours sur la monétisation
publicitaire, un moteur de recherche pour lui.
Mais aussi dans ses partenariats et comment elles se développent. Faut remettre, donc Yahoo maintenant fait partie de Verizon depuis plus d'un an et demi. Et donc c'est vraiment cet investissement, faut le mettre dans le cadre, encore une fois, de Verizon, c'est la 5G avant tout, et donc le bras armé de Verizon dans les médias, d'où le nom. On revient sur les marques qui ont une signification, c'est du contenu et des expériences utilisateurs via Yahoo, qui est notre marque en propre, et bien sûr avec d'autres partenaires, puisque j'ai parlé de Microsoft, mais il y en a d'autres, notamment aux États-Unis avec Samsung, qui est déjà développé.
Mais la 5G va nécessiter des contenus spécifiques.
Oui, en fait, le traitement, alors c'est une très bonne question, et là on pourrait en parler au cours et avec d'autres exemples au cours d'une autre émission, les contenus spécifiques, parce que vous n'allez pas du tout traiter la même chose, c'est pas juste un peu plus vite, c'est l'expérience immersive, notamment sur des événements live, sur le traitement de l'information, va être totalement différente. Ce que vous allez pouvoir faire en contenu 5G, côté publicitaire et côté contenu pour les utilisateurs sur mobile, encore une fois, je reviens sur vidéo sur mobile, avec la 5G n'aura rien à voir. D'accord. Et donc, c'est pas du tout la même façon de le faire, sinon ça sera totalement fade. Et donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Cette révolution 5G, on est dedans, elle arrive déjà, elle est déjà là. Donc aux États-Unis, elle est arrivée également en Asie, et donc Verizon Media dans les autres pays, dont la France, on sera aux avant-postes pour proposer cela aux utilisateurs, à nos utilisateurs et aussi aux annonceurs.
On n'est déjà pas complètement couvert en 4G, alors la 5G, on va peut-être attendre un peu, non?
Vous verrez.
Oui, on attend ça avec impatience.
Merci beaucoup Eric Marévion. Je rappelle que vous êtes vice-président France et Allemagne de Verizon Media.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, c'est avec Valérie Poitain. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors, on parle avec vous du rachat de l'agence publicitaire Drogba 5 par Accenture.
Absolument. C'est en fait, c'est la nouvelle illustration de la convergence des métiers qu'on observe depuis quelques temps entre les milieux du conseil et le milieu de la communication. Si vous vous rappelez bien, au début des années 2010, on va dire, ces cabinets sont entrés sur ce marché de la communication par le rachat d'agences digitales. Il y a eu Bakelite par Capgemini, Ubermind par Deloitte, Fjord par Accenture. Il y a eu ensuite, après ces rachats, l'intégration, le recrutement de profils un petit peu référents du secteur. Il y a par exemple Claude Chaffiot, qui est l'ex-patron de JWT, qui est aujourd'hui à la tête d'Accenture Interactive en France. Et là, on arrive sur cette troisième étape, qui est peut-être un petit peu l'étape ultime, avec le rachat des structures qui sont les plus emblématiques en fait de ce secteur, que sont les agences de publicité.
D'accord, mais le rachat de Drogba 5, quel intérêt pour Accenture?
Alors, pour Accenture, il y a déjà un premier intérêt qui est de poursuivre un peu le brand stretching dans la communication qui a été entamée là depuis quelques temps avec ces rachats d'agences. Puis il y a aussi le fait de s'offrir finalement un peu un joyau de la couronne, une sorte de yukun-kun, hein, Frédéric, vous
rappelez.
Oui, c'est
ça.
Voilà. Donc c'est
alors
c'est
que moi peu... non.
Non, mais je sais qu'il est amateur du corneau et de... donc c'est un peu c'est cette petite touche, cette petite image image un petit peu glamour qui fait un peu défaut, faut reconnaître, auprès des agences, enfin des cabinets de consulting. Il faut savoir quand même que l'agence et son fondateur, David Droga, ne sont ni plus ni moins que les plus titrés et les plus primés du marché. Donc là, potentiellement, on a quand même de quoi inciter les grandes marques à pousser la porte d'Accenture pour confier leur budget et leurs problèmes. Pour Droga5, le bénéfice, il est alors autre que le bénéfice financier, il est peut-être un petit peu moins visible. La structure se porte bien, le management lui va rester inchangé, donc on joue la carte de la continuité. Mais c'est une structure qui évolue aussi sur un marché qui est assez mature pour rester poli. C'est un marché qui est très challengé par les nouvelles technologies, qui est challengé par cette nouvelle communication qui est plus ciblée, on va dire, qui est moins publicitaire, moins télévisuelle. Donc quelque part, potentiellement, ça va pouvoir rassurer ce rapprochement des annonceurs en s'adossant cette fois-ci à un vrai groupe qui a quand même qui continue à murmurer à l'oreille des grands dirigeants.
Et donc c'est une bonne affaire ce rachat.
Alors c'est une bonne affaire. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est de savoir si la magie finalement va opérer entre ces deux univers qui sont quand même assez différents. On a d'un côté les conseils, les cabinets de conseil de consulting qui sont qui ont une image un peu rigueur, avec des process, etc. Et on a de l'autre côté celui des agences de publicité qui ont elles aussi leurs process, mais qui ont une culture qui est diamétralement opposée. Maintenant, si on veut bien se rappeler qu'Accenture est à la base un expert de l'accompagnement des entreprises en phase de transformation, on voit mal en fait pourquoi le fait d'ajouter une nouvelle corde finalement à son arc de conseil pourrait changer ou pourrait poser problème. En revanche, si on regarde également la relative discrétion de ces agents, enfin de ces cabinets de consulting depuis qu'ils ont investi des nouveaux segments de la communication, si on regarde aussi le fait que les recrutements stratégiques, je parlais de Claude Chaffiot, mais d'autres recrutements stratégiques n'ont pas été vraiment des réussites. On peut parler de Mathieu Morgenstern, qui était l'ancien patron de Digitas, LBI, qui est passé quelques mois chez Accenture et qui depuis est devenu le président de WPP en France. Voilà, on se dit que finalement rien n'est joué. Donc il va falloir se laisser un petit peu de temps pour voir, et ce même si ce n'est pas vraiment dans l'usage de notre économie moderne.
Merci Valérie Botin. Et puisqu'on parle de rachat, on va rappeler quand même cette information de la semaine aussi. On a appris que Publicis avait des ambitions pour racheter Epsilon, qui là pour le coup est spécialisé dans le marketing digital.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Manceau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du planning stratégique de Kantar Division Média et vous publiez une étude sur les marques et les cultures urbaines. Et à vos côtés, Thomas Jamet. Bonjour.
Bonjour.
PDG d'IPG Média Brand France. Alors d'abord, les cultures urbaines aujourd'hui, ce sont des codes. Mais est-ce qu'ils sont démocratisés complètement ou est-ce que ça reste, disons, destiné à une certaine cible?
En fait, ils sont démocratisés d'une certaine manière, mais pour certaines personnes qui comprennent les cultures urbaines. Il faut revenir tout de suite, qu'est-ce que c'est que les cultures urbaines? C'est des cultures qui émergent des villes, parce que chaque ville a une culture. Et ensuite, c'est des communautés émotionnelles qui se rejoignent par rapport à des symboles, par rapport à des pratiques sportives, des pratiques artistiques. Et effectivement, c'est démocratisé. Si vous faites par exemple du skate, vous allez comprendre les us et coustumes de ces personnes. Donc voilà.
Donc moi, je vais rien comprendre, en fait. C'est pas l'idée sur le skate, en tout cas.
Ça dépend. Vous allez peut-être avoir une culture urbaine qui va vous parler. Parce qu'une culture urbaine, c'est justement, c'est pluriel. Donc ça peut être du skate,
ça peut être
du punk.
Très, très large.
Ça peut être tout un tas de choses, pourvu que ça émerge justement de la rue et qu'il y ait un côté un peu alternatif et spontané et qu'on puisse se retrouver dedans et ensuite être créatif. Et ensuite arrive le détournement qui est, on va dire, une des choses les plus importantes dans les cultures urbaines, c'est détournement de produits, détournement du mobilier urbain, détournement de symboles, comme on se rappelle les Sex Pistols avec le God Save the Queen. Donc on est vraiment là-dessus. Donc effectivement, actuellement, je pense que si on parle des cultures urbaines, c'est très hip-hop, très rap. Si on avait fait notre étude en 77, je serais en train de vous parler de Sex Pistols, je vous parlerai de Malcolm McLaren et de Vivienne Westwood. Donc dans deux ans, si je reviens, je vous parlerai peut-être de rock, de créolisation, d'hybridation de la musique et ces cultures urbaines toujours plus hybrides.
Alors c'est quelque chose, c'est un domaine qui fascine les marques, évidemment, en particulier les marques de luxe d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire de ça sans passer pour juste des récupératrices en quelque sorte, Thomas ?
En fait, les marques sont des agents culturels, comme d'autres agents culturels. Elles sont dans la vie des gens. Donc elles sont, bien évidemment, dans la ville, par définition, puisque la ville devient monde. Le monde est une ville également. Hein. C'est vrai qu'on n'est plus dans les années 50, 60, avec cette espèce de postmodernité qui commençait à arriver, où finalement les marques comme Coca-Cola, qui étaient dans cet imaginaire de des vahinés, quelque chose d'un petit peu exotique, ou même la figure du cowboy Marlboro, on était dans les grands espaces. Ah non, il n'y a plus aucune marque qui fonctionne sur grand espace, à part peut-être les marques automobiles. Oui, mais là c'est encore un autre symbole qui est celui effectivement de l'homme seul avec son cheval sur la montagne. C'est encore un autre symbole. Mais les voitures arrivent quand même toujours à la fin dans la ville, dans un univers qui ressemble effectivement au clip de PNL. Donc les marques de luxe, c'est intéressant de voir à quel point elles s'approprient effectivement ces codes de la rue, à la fois pour se donner une modernité et puis aussi parce que c'est vecteur de business. On parlait de Malcolm McLaren à l'instant, Vivienne Westwood, qui est effectivement pas une marque de grande consommation, mais au contraire une marque de luxe qui est toujours très très successful aujourd'hui, s'est lancée avec les Sex Pistols comme un produit marketing. Donc Malcolm McLaren, qui était le compagnon de Vivienne Westwood, a effectivement monté les Sex Pistols comme un boys band pour être des porte-manteaux des vêtements designés par sa compagne.
Mais est-ce que c'est réservé au luxe, à la mode, ou est-ce qu'il y a d'autres domaines, d'autres marques qui peuvent s'emparer de ce genre de code?
Alors en fait aujourd'hui, cette idée d'investir la rue, elle est partout. Vous avez dû remarquer que l'affichage sauvage utilisé par les marques et les marques de luxe est partout dans Paris. Donc c'est un vrai débat d'ailleurs. Mais on utilise beaucoup aujourd'hui, les marques utilisent beaucoup aujourd'hui l'affichage sauvage comme un vecteur de communication. Donc c'est se réapproprier les codes de la rue pour être vraiment dans un univers très proche de cette street cred que recherchent les marques. C'est à la quête de ce graal qu'est la street credibility, qui est très difficile à trouver. Plein de bad buzz et de faux exemples et de mauvais exemples d'ailleurs à ce sujet-là.
Christophe Minceau.
Alors justement, c'est vrai qu'il y a deux choses à noter. C'est la street credibility, on essaie d'y arriver. Après, il y a un alignement de la chaîne de valeur. On voit beaucoup de choses, par exemple Travis Scott avec Saint Laurent. Le seul problème, c'est que vous voyez de l'affichage sauvage, vous voyez tout un tas de choses. Vous arrivez dans une boutique Saint Laurent, d'un seul coup, on a une rupture. C'est-à-dire que ces jeunes issus des cultures urbaines se disent, il y a une autre icône qui est sur les murs de Paris, et on se retrouve dans un magasin où d'un seul coup il n'y a plus de Travis Scott, on vous regarde différemment et il y a un problème. Lacoste a eu le même problème. Maintenant vous allez dans une boutique Lacoste, vous pouvez très bien avoir quelqu'un en survêtement avec casquette avec une personne qui a 70 ans pour acheter un polo pour son petit-fils. Donc on a quand même quelque chose qui en a un retournement de valeur. Et la deuxième chose que je trouve très extrêmement importante, c'est que à l'époque Vivienne Westwood, elle a créé sa marque. Tout à fait. Tandis que maintenant les personnes issues des cultures urbaines investissent les maisons de mode, Virgil Abloh maintenant chez Vuitton. Donc voilà, ils ont compris que on pouvait accéder et plus obligatoirement créer par soi-même notre marque. Ils l'ont fait avec Off-White, mais ensuite ils ont irrigué, ils sont venus en fait dans les maisons de mode, et devenir patron de Vuitton, c'est quand même pas rien.
Frédéric.
C'est vrai. Oui, tout à fait. Mais du coup, pour les marques, en particulier ces marques de luxe, les Vuitton, les LVMH, etc., c'est un moyen d'avoir les fameux millennials, c'est-à-dire se dire on les prend tout jeunes, et comme ça on va se les garder jusqu'à ce qu'ils aient les moyens de nous acheter les trucs les plus chers.
Alors déjà, moi j'ai un problème avec les millennials, je sais pas à quoi ressemble un millennials. Et je pense justement ce qui fonde les cultures urbaines, c'est que c'est transgénérationnel, et que quand je vous parle de communauté, c'est même des tribus, et qui sont glissantes les unes dans les autres. Donc en termes de segmentation, faut oublier en fait tout ce que l'on connaît en termes de CSP, sociodémo, etc. Donc en fait, pour les atteindre, c'est juste trouver de nouvelles façons d'atteindre nos cibles. Et quand on regarde certaines marques, elles fonctionnent par collaboration, ce qui est un item très très fort des cultures urbaines. C'est
ça, c'est qu'en fait, il faut absolument un ambassadeur qui soit représentatif si vous voulez être crédible.
Bien sûr, et c'est vrai que ce glissement des valeurs qu'on appelle la postmodernité, effectivement théorisé par Michel Mefezoli, qui avait écrit en 88 Le temps des tribus, donc tu parles de tribus, on est exactement là-dedans. La collaboration, ça fait partie de cette postmodernité, ça fait partie du brouillage. C'est tout d'un coup une collaboration entre Lacoste et Kissaring, entre l'univers un peu effectivement classique du polo traditionnel et de l'art contemporain. C'est Chanel et Pharrell, c'est une marque de luxe ou une marque X ou Y qui va s'associer avec un artiste ou un créateur ou un designer de façon plus ou moins inattendue. Et c'est dans ce brouillage que va naître effectivement une valeur ajoutée qui va tout d'un coup faire naître une marque de partenariat quelque part, puisque c'est la plupart du temps pour des collections capsules ou des événements de lancement. On peut parler d'H&M aussi, H&M qui a multiplié les collections éphémères, la dernière étant Moschino avec ce côté très pop art, avec beaucoup de succès, mais aussi bien évidemment avant Lagerfeld, l'an 20, etc. Donc je dirais que ce côté de collaboration fait partie des règles du jeu, de la street culture, comme d'ailleurs la collaboration entre artistes.
Christophe Manson, notamment. Est-ce qu'il y a des erreurs à pas commettre quand on veut s'associer comme ça avec...
En fait, il faut juste avoir un peu d'authenticité. On peut s'associer à qui on veut à partir du moment où on est authentique et que ça n'apparaît pas comme une récupération. Et ça, c'est bon pour la mode, c'est bon pour les médias, c'est bon pour tout, en fait. Donc, juste le code qu'on peut retenir, c'est l'authenticité. On voit, Fred Perry a toujours gardé son authenticité. C'était une marque qu'on peut appeler Sésame et qui est devenue une marque Sésame et Fierté en étant été détournée par les modes, par les skins, par les hooligans, quand même des personnes qui sont assez fortes. Et maintenant, c'est une icône de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on voit tous les rois de la pop, des Damon Albarn et autres, avec à chaque fois un Fred Perry. Donc, en fait, c'est juste être authentique, garder son image et ne pas avoir peur d'être détourné. On peut presque imaginer certaines marques. Adidas se fait très bien. C'est une marque qui est presque une open platform, en disant, bah voilà, venez, on va vous aider, le Creators Project, venez à nous, et ne pas avoir peur, en fait, de ces personnes qui, en fait, vont juste vous faire passer un nouveau step dans la création de votre entreprise, dans de vos produits, et également vous ouvrir de nouveaux champs de consommateurs assez intéressants.
Merci beaucoup, Christophe Manson. Je rappelle que vous êtes directeur du planning stratégique de Kantar Division Média, et Thomas Jamais, PDG d'IPG Media Brands France. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.